ETI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles et Financière de Courcelles.
Bonjour à tous, bienvenue à bord de TI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise, abonnés au podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X, ETI Radio-du-bas TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Nicolas Lapeyre, directeur du développement de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Et Quentin Gros, directeur ex-cofinance et transactions Île-de-France. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous recevons Pascal Vespizer, président de Gesim Link Group. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors, vous êtes formidable. Vous avez plusieurs vies, banquier d'entreprise, contrôleur financier, dirigeant de groupe allemand même. Une première partie, on va dire, riche et même diversifiée, non ?
Oui, oui, oui.
C'était une volonté ou c'est à chaque fois des...
C'était l'envie de... Au début, on ne sait pas trop.
Mais... Ouais, c'est vrai.
j'ai commencé par le métier de la banque. C'est une bonne manière de démarrer la connaissance du monde de l'entreprise. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais envie de sortir de ce monde-là pour aller tâter de l'entreprise. Et donc, je suis allé dans des groupes, dans un groupe américain d'abord. Et puis finalement, comme on est en Alsace, j'ai fini dans des groupes allemands. Et donc, j'ai dirigé des filiales de groupes allemands. Voilà, donc, ça a été le fil rouge de ma première, ou de ma deuxième vie.
Ça dépend du nombre de vies,
voilà.
Et même une start-up à Berlin?
Oui. Bah, comme tout le monde, en 2000, on s'est dit, on est capable de faire une start-up. alors ça existe toujours, mais c'est pas devenu exactement ce qu'on voulait. Ouais. C'était un enregistrement de même. C'était très intéressant.
Ouais. D'accord. Et pourquoi Berlin? Pourquoi pas en Alsace?
Pourquoi Berlin? Parce que même chez les start-up à l'époque, ça bougeait très vite. Ouais. En 2000, on a commencé à Francfort, qui est pas une très belle ville, pour être honnête. Et puis finalement, on a racheté une autre start-up qui allait pas très bien, enfin moins bien que nous, et donc on est allé à Berlin et j'ai vraiment hésité à un moment donné à m'installer à Berlin.
Ouais.
Mais Berlin est une ville fantastique.
Il paraît, ouais. Alors retour en Alsace ensuite, dans la lingerie, il y a pire.
Oui.
Vous allez découvrir là, des plateformes de logistique, c'est un nouveau monde là encore.
Oui, parce que moi je ne m'occupais pas tellement des canons, mais plutôt des cartons. Donc, je dirigeais la filiale d'un groupe... Suisse, mais d'origine allemande, qui était un leader dans la lingerie, et on était la plateforme logistique. Donc, c'était un univers avec des grands 55 000 références, des milliers de colis qui partaient tous les jours. Voilà. SAP à mettre en place, voilà, c'est des sujets intéressants.
Ouais, ça doit être formidable, effectivement. Et enfin, reprise d'une entreprise, Gesim, donc c'est quoi?
Alors, oui, donc avant que je sois trop vieux, je me suis dit, je vais tenter une aventure entrepreneuriale. Et donc, par un ami expert comptable, finalement, on m'a proposé de reprendre une petite société d'intérim à l'époque, qui était là depuis 71, donc, voilà, mais qui avait, c'était une dizaine de personnes de permanents, comme
ouais.
on dit, voilà, qui faisaient 8-9 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Quand même.
Et moi, je suis pas du tout ingénieur, hein, ouais, donc, je me sentais pas capable de reprendre une société qui inventait le fil qui coupait le beurre plus fin que le fil qui coupait le beurre déjà très fin, quoi.
Mmh.
Donc, j'étais plutôt attiré par la distribution et les services. C'est ça qui m'a fait choisir, pas l'attrait en tant que tel de... Mais j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai trouvé que c'était un métier fantastique. Voilà.
Oui.
Ça, c'est la chance. Ce métier m'a passionné.
Ouais. Bah, tant mieux. Combien de salariés aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, on a 300 CDI qui sont répartis, soit parce qu'on a diversifié un peu notre métier.
Puis
de cette petite structure d'intérim, on y a rajouté... d'abord, on a fait grandir. On a 25 agences aujourd'hui. Et on a fait grandir aussi... On a la première structure... premier cabinet de recrutement en Alsace avec une trentaine de consultants, mais on est allé aussi vers on a une entreprise de travail à temps partagé, du portage salarial, de la sous-traitance en ingénierie. Donc, quand on met tout ça ensemble, ça fait 300 CDI et puis bien sûr, 2500 intérimaires par ailleurs.
Enfin, tellement, évidemment. Et chiffre d'affaires?
On fait 90 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Bon, on va voir ça en détail. Nicolas.
Bonjour Pascal. Aujourd'hui, vous êtes dans un métier qui est lié à l'humain. On sait qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre, c'est compliqué. Je croise tous les jours des chefs d'entreprise. Il n'y en a pas un qui me dit qu'il a du mal à recruter. Aujourd'hui, comment vous arrivez, vous, à garder un vivier, en fait, de gens qui vont travailler en intérim, qui ne vont pas partir pour des CDI? Ça se passe comment aujourd'hui pour vous, en fait, pour arriver encore à attirer des intérimaires, en fait?
Bon, alors, en fait, il n'y a pas un seul profil d'intérimaire. Nous, on est par exemple très présents dans l'industrie. On fait plus de 60% de notre chiffre d'affaires dans l'industrie. C'est un peu lié au secteur géographique. On travaille en Allemagne aussi. On travaille au Luxembourg. Et donc, en gros, il y a un tiers de nos intérimaires qui font des longues séquences. Quand je dis des longues séquences, c'est qu'ils ont fait le choix de faire de l'intérim parfois pendant des années, pendant des dizaines d'années, certains toute leur carrière. Donc, c'est une partie de la population d'intérimaires. Donc, ceux-là, on peut les garder. L'intérim, c'est avant tout un intégrateur dans le monde du travail. Le profil type de l'intérimaire, c'est un homme, il a 26 ans, il se fait son expérience. Et donc, notre but à nous, c'est de pouvoir trouver les bons, les sont motivés, qui viennent le lundi aussi, et aussi le mardi peut-être. Et donc, du coup, notre savoir-faire, et d'essayer de savoir que telle personne, ça va plutôt coller. Je veux dire, tel électricien va plutôt coller dans cette boîte, peut-être pas dans l'autre. Donc voilà, ça c'est le travail au quotidien. Donc nous, le matin, quand on se lève, c'est pour trouver des candidats. On fait ça toute la journée, donc on finit quand même par en trouver, même si c'est un peu plus difficile.
Évidemment.
Quentin.
Je crois que vous avez repris la société avec un fonds d'investissement à vos côtés. Aujourd'hui, vous en avez 3 au capital qui vous suivent. Comment ça s'articule aujourd'hui au quotidien, leur accompagnement, et ce qui vous aide aujourd'hui sur le développement finalement et la croissance de votre groupe?
Alors, pourquoi des fonds? En fait, ils étaient là. Il y en a un qui était là avant moi. C'est eux qui m'ont cherché, parce que c'est souvent quand tu reprends, c'était un fonds majoritaire, et celui qui a vendu n'est pas resté longtemps. Voilà. Donc, je suis venu un peu en pompier. Donc, c'était. Mais de toute façon, moi, j'étais pas riche. Moi, j'étais un manager qui gagnait bien sa vie, mais pour acheter une boîte, ça aurait été un peu juste. Donc, les fonds, ils sont déjà là parce que ils font leur métier d'apporter des moyens financiers. Et il y a un truc qu'ils savent pas trop faire, c'est manager. Donc, ils ont besoin de managers. Et donc, finalement, c'est une bonne entente. Donc, aujourd'hui, je manage. J'en suis au LBO secondaire, là. Parce que j'ai commencé tard, c'est ce que j'ai dit, un peu trop tard. Mais c'est vrai que c'est avant tout pour moi à ce stade-là des partenaires financiers que je sollicite finalement beaucoup plus. Ils me demandent, j'ai rien fait de ce que je voulais pas faire, et ils m'ont pas obligé à faire quelque chose que je voulais pas faire, quoi. Donc en quelque sorte, parce qu'on le fait en bonne intelligence. Et c'est bien aussi d'être pas être seul, à prendre. Voilà, ils sont dans notre. Ça s'appelle plus un conseil de surveillance. Maintenant, ça s'appelle un conseil stratégique, mais c'est quand même un conseil de surveillance. Et du coup, je trouve que c'est assez enrichissant parce qu'ils sont aussi confrontés à d'autres cas de figure. Et il y a une espèce de thématique transverse qui est le financement de l'activité, de la croissance. Nous, on est passé de 8-9 millions à 90 millions. Ça se fait avec des fonds, avec des banques. Et donc, c'est quand même une mécanique qui est très utile pour des gens qui ont peut-être des idées ou qui ont envie d'entreprendre, mais qui n'ont pas les moyens de le faire, quoi.
Aujourd'hui, vous avez intégré des cadres au capital. Est-ce que vous pensez que face à la pénurie de main-d'œuvre, et en tout cas, ce que je veux dire, c'est au départ souvent de salariés. Est-ce que vous pensez que c'est le mécanisme numéro un pour fidéliser vos talents et de les garder dans la société et de grandir avec eux?
Moi, je peux pas dire que c'est le mécanisme numéro un. Si je l'ai fait, c'est que on était dans cette mécanisme de LBO et que ça me semblait assez naturel que les managers qui étaient là depuis un certain temps participe au deuxième tour, et donc c'était plus aussi pour c'était à la fois une forme de reconnaissance, mais c'était aussi un engagement plus fort, puisqu'on peut dire aussi à des managers qui sont actionnaires que ça s'arrête pas au chiffre d'affaires, quoi. C'est, je veux dire, ça va jusqu'en bas. Et que ce qui compte, c'est effectivement la rentabilité. Pourquoi la rentabilité? Parce qu'on a des choses à rembourser, on a à reconstituer. Donc, ça permet un langage qui est finalement plus un langage de partenariat, de vérité par rapport à une situation. Donc, moi, je pense que c'est ça. Après, pour certains, c'est sans doute intéressant, important de se sentir un peu plus concerné. Et puis, ils devront pas, théoriquement, ils feront pas une mauvaise affaire. Mais ça y participe, mais je pense que voilà, il y a plein de boîtes qui ne le font pas, qui arrivent quand même à garder parce que ils ont le bon état d'esprit, le bon management. C'est pas une condition sine qua non.
Merci beaucoup, Pascal. Vous êtes formidable. Merci également à vous, Nicolas et Quentin. Vous êtes formidables également. Fin de ce numéro de TI Radio. Trouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouveau dirigeant d'entreprise.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle et Financière de Courcelles.